et ça me frappe très souvent aussi. Et ça, c'est que dans l'Ancien Testament, moi j'aime bien l'Ancien Testament, j'ai un grand amour des histoires, des personnes qu'on voit là-bas. Et ce qui me frappe toujours, c'est que même si, par exemple, la personne dont on va étudier la vie aujourd'hui, même si ça faisait il y a 3500 ans à peu près qu'il était sur Terre, mais punaise, il me ressemble beaucoup parfois. C'est pas le changement de culture et le changement de 3500 ans en fait qui change trop le caractère de l'homme. Et j'espère que ce qu'on va voir aujourd'hui, j'espère que ça va être un encouragement pour vous. Quand je préparais ça, c'était vraiment dans l'esprit de vous encourager, parce que il faut savoir que Dieu persévère. Parfois, on entend des prédications où c'est nous qui devons persévérer, et c'est vrai. Nous devons persévérer. Mais il y a aussi Dieu qui persévère. Dieu, il est patient. Vous avez entendu la semaine dernière Pascal qui parlait justement de la patience. Et en fait, il y a une suite logique entre ce que Pascal a partagé la semaine dernière et ce que je vais vous dire aujourd'hui. Donc, parfois, en lisant la Bible, on se pose la question, mais pourquoi Dieu a-t-il choisi cette personne-là? Parce que franchement, il y a tant de choses dans sa vie qui ne vont pas. Il y a les mauvais choix, il y a les mauvaises décisions, il y a les mauvaises motivations. Donc, pourquoi Dieu a-t-il choisi de travailler à travers cette personne-là? Et nous allons aujourd'hui survoler un peu la vie de Jacob. Et nous allons voir pourquoi c'est une très bonne chose que Dieu persévère. On a besoin de l'entendre, je pense. Donc, l'histoire complète de Jacob se trouve en Genèse, dans le livre de Genèse, entre les chapitres 25 et 49. Alors, on ne va pas tout faire aujourd'hui, ça fait un peu trop de chapitres, mais on va se concentrer plus sur la première partie de la vie de Jacob, parce que c'est surtout là où on voit que ça ne va pas du tout. Et on va voir comment Dieu persévère avec lui. Pour le ramener à un moment où il y a vraiment de la transformation dans sa vie. Donc, on commence en Genèse 25. Ça, c'est la naissance de Jacob. Alors, il y a les parents, Isaac et Rebecca. Ça faisait 20 ans qu'il était marié. Il voulait avoir des enfants, il ne pouvait pas. Et donc, Isaac a prié. Isaac savait qu'il y avait une promesse qui venait à travers Abraham, son père, que il y aura une descendance, il y aura des enfants. Mais après 20 ans de mariage, il n'y avait rien. Et donc Isaac a prié. Il a prié pour sa femme. Il a dit, Seigneur, on veut voir. On veut voir cette promesse devienne la réalité. Et heureusement, Dieu a exaucé cette prière. Et donc la naissance de Jacob et son frère, parce qu'ils étaient des jumeaux, et son frère aîné, Ésaü, c'était l'exaucement de la prière. Ils ont prié, et voilà Jacob et Ésaü. C'était une joie pour les parents, mais il faut savoir en même temps que c'était très compliqué. Rebecca n'a pas eu une grossesse facile. Alors on voit Chanel rayonnante, même si elle en a un peu marre d'être enceinte. Mais pour Rebecca, c'était pas ça. Elle n'était pas là... bien dans l'attente, il y avait quelque chose qui se passait à l'intérieur d'elle, dans son ventre. Elle ne comprenait pas, ça faisait mal, c'était pas confortable. Et à l'époque, il y a 3500 ans, il n'y a pas d'échographie, il n'y a rien qui peut expliquer ça. Et donc, elle va à Dieu. Et elle dit, Éternel, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que franchement, moi, je ne sais pas si je peux continuer à vivre avec ça. Ça fait tellement mal. Et Dieu, il a dit quelque chose de très intéressant. Il a dit, hop, est-ce que ça va marcher? Non, il faut que tu fasses. Ensuite, il y a un noir entre chaque. Donc, ce que Dieu a dit à Rebecca, il a dit, il y a deux nations dans ton ventre. Bon, ça fait beaucoup. Hein. Deux peuples différents naîtront de toi. L'un des deux sera plus puissant que l'autre et l'aîné sera assujetti au cadet. D'accord. Alors, elle ne savait pas à l'époque qu'elle allait avoir des jumeaux. Maintenant, elle sait. Donc, il y a deux enfants, il y a deux bébés là. Et donc, c'est à ce moment-là que Dieu prononce sa première bénédiction sur Jacob. Parce que Jacob, c'est le cadet. C'est le plus jeune. Et quand les enfants sortent du ventre de Rebecca, il y a Esaü qui est l'aîné, qui sort d'abord. Et puis il y a Jacob qui vient derrière. Il est déjà accroché au talon de son frère. Et c'est pour ça qu'il a le nom Jacob. Parce que Jacob, dans l'hébreu, le mot Jacob, ça sonne un peu comme le mot talon. Et c'est pour ça qu'ils ont donné. Parce qu'il était là, il était bien accroché. Je lâche pas l'aîné. Malheureusement, Jacob, c'est aussi un mot qui fait penser au mot hébreu qui veut dire tricheur. Okay, et on va voir que, voilà, il y a des choses qui se passent, qui montrent que ce n'était pas un mauvais prénom pour lui. Donc, ils grandissent et Jacob se montre très manipulateur. Il est jaloux de l'affection que porte son père pour son frère aîné, parce que Esaü, c'est le préféré de Jacob. C'est le préféré d'Isaac. Et Jacob, c'est le préféré de Rebecca, sa mère. Donc, c'est une famille très dysfonctionnelle. Et donc, on voit que Jacob, il est très manipulateur, mais on voit aussi qu'Esaü, il reste indifférent à la valeur de sa position. Il s'en fiche du fait qu'il est le fils aîné et qu'il y a une bénédiction spéciale qui va avec ça. Et il est, fils aîné, je m'en fiche. Et on sait que c'est le cas, parce que à travers un incident qui n'est pas très glorieux, ni pour Jacob, ni pour Esaü, Esaü vend son droit de fils aîné pour une bonne assiette de carbonade. Il rentre de la journée, il est fatigué, Jacob a fait à manger, et Esaü a faim, il dit, donne-moi à manger, et Jacob dit, mais d'abord, tu me vends ton droit de fils aîné, et moi je te donne un peu de carbonade. Donc Esaü, d'accord, okay, parce que j'ai faim. Donc on voit que ni l'un ni l'autre, il y a un qui est un peu manipulateur, et puis il y a l'autre qui s'en fiche complètement. Donc tu dis, oh Dieu, tu as vraiment un choix là. Qui va être le peuple qui va glorifier toi dans les années à venir? Est-ce qu'on prend le tricheur ou est-ce qu'on prend celui qui s'en fiche? C'est pas un choix facile pour Dieu, mais Dieu avait déjà fait son choix. Parce qu'à travers la parole qu'il a parlé avant même la naissance. Donc ensuite, on arrive à Genèse 27. Et à cette époque, après le droit du fils aîné, c'était la bénédiction du père qui était très recherchée. Et Esaü, il ne va jamais vendre cette bénédiction comme il a vendu son droit de fils aîné. Et donc, sous la direction de Rebecca, Jacob triche. Voilà, il porte bien son nom. Donc, il triche pour que son père, qui est aveugle, lui bénit Jacob, et à la place d'Esaü. Mais j'aimerais juste souligner quelque chose, parce que là, on voit que c'est Jacob, mauvais. Mais il est important de noter que la bénédiction qu'Isaac, le père, voulait proclamer sur Esaü, en fait, ça va à l'encontre de ce que Dieu avait déjà prononcé. Donc Isaac non plus, il n'est pas vraiment dans le droit chemin là, devant Dieu, parce qu'il a ignoré ce que Dieu avait déjà proclamé sur la vie de ses fils. Parce que Dieu a dit, l'aîné sera assujetti au cadet. Donc Esaü va être assujetti à Jacob. Mais avec ce que Isaac proclame, finalement c'est sur le faux Esaü, parce qu'en fait, c'est Jacob, parce que Jacob s'est déguisé en Esaü pour que ça passe. Tu peux projeter. Donc, Dieu avait dit l'aîné sera assujetti au cadet, et Isaac voulait proclamer sur l'aîné, son préféré, que des nations te soient assujetties, que devant toi des peuples se prosternent. Sois le chef de tes frères, et que les fils de ta mère s'inclinent devant toi. Donc, c'est exactement l'inverse de ce que Dieu avait annoncé pour la vie de Jacob. Donc Isaac se trompait. Mais on ne peut pas excuser ce que Jacob a fait, simplement parce que son père s'est trompé. Parce que Dieu, est-ce qu'il aurait vraiment choisi que Jacob ait cette bénédiction à travers la tricherie et le mensonge? Je ne pense pas. Parce que ça va contre le caractère de Dieu. Dieu est saint. Dieu dit que je suis la vérité. Donc, ce n'est pas Dieu qui va dire, voilà, tu vas mentir pour avoir ceci, cela. C'est un peu comme si... C'est un peu comme si moi je disais Dieu va pourvoir à mes besoins, c'est une promesse. Donc moi je vais tricher sur mes impôts, j'aurai plus d'argent dans mes poches, et donc voilà, j'ai pas de besoins financiers. Ça c'est pas glorifiant à Dieu, ce genre de choses. On ne peut pas manipuler les situations de façon malhonnête pour voir la bénédiction de Dieu. Et donc on voit qu'il y a un problème. Il y a un problème dans les démarches de Jacob. C'est que, bon, on peut imaginer qu'il était au courant de la parole qui avait été prononcée avant sa naissance. Surtout, je suis sûre que Rebecca lui a dit, « Ouais, mais écoute, mais Dieu a dit de toi que voilà, ton frère sera assujetti à toi. » Ah, c'est bien, hein? Surtout parce que Jacob, c'est son préféré. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que Jacob était son préféré. Comme je disais, c'était une famille un peu dysfonctionnelle. Mais cet incident, ça nous donne la forte impression que Jacob, il connaissait les promesses de Dieu, il connaissait la prophétie, mais il ne faisait pas confiance à Dieu pour que la parole soit accomplie. Il a dit, il faut que moi, j'agisse en dehors de la manière dont peut-être Dieu aurait préféré, pour avoir ce que Dieu a promis. Et donc, je vais le faire à ma manière. Je vais faire à ma façon. Parce que je sais qu'il a une parole. Mais ça veut dire qu'il n'a vraiment rien compris de Dieu. Il n'a vraiment rien compris. Il a entendu la prophétie, mais il croit qu'il doit faire lui-même. Que Dieu n'est pas suffisamment puissant pour accomplir la parole qu'il a prononcée. Donc, pour lui, la fin justifie les moyens. Donc, on a cette situation de tromperie. Bon, les tromperies, les triches, il y a toujours des conséquences. Il y a des conséquences. Et, Paul, si tu peux faire la suite. Donc, les conséquences de la triche, Ésaü prit Jacob en haine à cause de la bénédiction qu'il avait reçue de son père. Et il se dit en lui-même, « La mort de mon père n'est pas loin. Alors, je tuerai Jacob, mon frère. » Sympa. On informa Rebecca des propos d'Ésaü, son fils aîné. Elle fit venir Jacob, son fils cadet, et elle lui dit, « Voici que ton frère, Ésaü, veut te tuer pour se venger de toi. Maintenant donc, mon fils, écoute-moi et fais ce que ta mère dit. Pars d'ici et fuis chez mon frère Laban, à Haran. Reste chez lui quelque temps jusqu'à ce que la colère de ton frère s'apaise. » Donc, on voit déjà les mauvaises conséquences, des mauvaises actions de Jacob. Donc, Jacob s'enfuit. Et pendant sa fuite, malgré les raisons de sa fuite, Dieu se présente personnellement. Il se présente personnellement à Jacob pour la première fois. Alors, Jacob s'est couché. Et puis, on lit. Et voilà, on voit le début de la persévérance de Dieu. Dieu a prononcé des choses il y a 40 ans. Parce qu'à ce moment-là, Jacob, il a 40 ans. Et pendant 40 ans, il a vu la façon par laquelle Jacob essaie d'avoir ce qu'il croit, c'est son droit. Mais il dit, bon, je ne lâche pas, on va persévérer avec ce Jacob. Donc, Jacob est en fuite, il fait le voyage vers son oncle, chez son oncle, il se couche, et puis, pour la suite... On voit que dans cette présentation, ça vient à travers une rêve. Donc, dans son rêve, dans le rêve de Jacob, il vit une sorte d'escalier reposant sur la terre et dont le haut atteignait le ciel. Et voici que les anges de Dieu montaient et descendaient cet escalier. L'Éternel lui-même se tenait tout en haut et lui dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton ancêtre, et le Dieu d'Isaac, ton père. » Cette terre sur laquelle tu reposes, je te la donnerai à toi et à ta descendance. Elle sera aussi nombreuse que la poussière de la terre. Elle étendra son territoire dans toutes les directions, vers l'ouest et l'est, vers le nord et le sud. Par toi et par elle, toutes les familles de la terre seront bénies. Et voici, je suis moi-même avec toi. Je te garderai partout où tu iras et je te ferai revenir dans cette région. Je ne t'abandonnerai pas, mais j'accomplirai ce que je t'ai promis. Alors, je ne sais pas pour vous, Dieu n'est pas ambigu là. Je pense que Dieu est assez clair. Vous êtes d'accord? Il est très clair. Je vais accomplir ce que je t'ai promis. Je te ferai revenir. Je serai avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Et Dieu, il est clair. Il n'y a pas d'ambiguïté dans ce qu'il est en train de dire. Et je pense que, je ne sais pas pour vous, je pense que si moi j'avais eu une rencontre avec Dieu comme ça, même si j'avais des doutes avant, j'aimerais espérer, en tout cas, qu'après, mais je serais remplie de foi et tiens, Dieu, il est venu dans mon rêve, il m'a dit ceci. Donc, malgré ce que j'ai pensé avant, là, je fonce. Je fonce avec Dieu parce que Dieu est avec moi, il va accomplir tout ce qu'il a dit. Donc, j'espère que voilà, tout serait vraiment clair dans ma tête après ce genre de discussion avec Dieu. Mais en fait, peut-être pas. Parce que Jacob, c'est son rêve. C'est à lui que Dieu s'est présenté. Mais Jacob, il reste méfiant. Il voit pour la première fois un Dieu puissant. Peut-être qu'il n'a pas vu jusqu'à ce point-là. Et le verset 17 dit que Jacob fut saisi de crainte. Mais il se méfie toujours de Dieu. C'est une crainte, mais ce n'est pas une bonne crainte, si je peux dire comme ça. C'est « Wouh, Dieu est grand, Dieu est puissant ». Mais ce n'est pas une révélation de Dieu qui va lui pousser à faire confiance à Dieu. Et sa réponse est, et moi j'aime bien ça, parce que c'est nous, franchement c'est nous tout craché. Sa réponse est dans le verset 20 et 21. Si Dieu est avec moi, il a déjà entendu ce que Dieu a à dire. Donc je souligne là. Si Dieu est avec moi, s'il me protège au cours du voyage que je suis en train de faire, s'il me fournit de quoi manger et me vêtir, et si je reviens sain et sauf chez mon père, alors Dieu, l'Éternel, sera mon Dieu. Non. Si. Dieu lui a déjà... Mais face à face, quoi. Je serai avec toi. Si, on verra. Hein? On verra. Est-ce que Dieu, il va vraiment le faire? Donc, Jacob, il n'est pas un homme de foi. Vous êtes d'accord? On ne voit pas de la foi, là. On voit des conditions, des... Et si. Et pour l'instant, il dit, tu n'es même pas mon Dieu. Parce que c'est seulement si tout ça sera accompli, là, tu seras mon Dieu. Mais pour l'instant, tu n'es même pas mon Dieu. Ça, c'est... Jacob, il est assez clair quand même. Et pourtant, et c'est ce que je ne comprends pas parfois, Dieu veut quand même l'utiliser pour accomplir ses plans. Tu as quelqu'un, tu te présentes personnellement à quelqu'un et la personne dit, peut-être, on verra. Et c'est un peu ça que Jacob est en train de faire devant Dieu. Mais Dieu veut l'utiliser. Et c'est intéressant parce qu'en Romains 9, 11, justement en parlant de Jacob, l'apôtre Paul, il dit que Dieu choisit qui il veut pour accomplir ses plans. Qui il veut. Parfois, nous, on ne comprend pas les choix de Dieu quand on regarde autour. Mais c'est pourquoi lui? Pourquoi elle? Pourquoi? Mais la Bible est très claire. Dieu choisit qui il veut pour accomplir ce qu'il veut accomplir. En même temps, Jacob, il ne se facilite pas la vie. Parce qu'en fait, il choisit d'avancer sans l'assurance que Dieu veut lui donner. Sans croire dans la fidélité de Dieu. Et c'est intéressant que la bénédiction qu'il a volée ne lui donne aucune assurance. Il croyait que ça allait faire la différence. Si j'ai la bénédiction de mon père, tout ira bien. Mais en fait, parce qu'il a volé, plutôt qu'attendre, voir comment Dieu allait faire les choses, il peut même pas se dépendre de cette bénédiction qui vient là. Ce qui se passe, vous allez voir, ce quelque temps que sa mère a dit, bon, tu passes quelque temps chez ton oncle, ça devient 20 ans. 20 ans. Et pendant ces 20 ans, il vit encore des choses assez compliquées. On ne va pas les regarder aujourd'hui, on n'a pas le temps. Mais tout ce qu'il faut savoir, c'est que son oncle Laban est aussi magouilleur que lui. Donc franchement, une paire de tricheurs, comme ce n'est pas possible. Et il souffre. Il souffre pas mal pendant ses 20 ans à cause de son oncle. En même temps, il est béni, parce que Dieu le bénit quand même. Et à la fin de ses 20 ans, il a quand même une grande famille. Il a femme, enfant, plusieurs femmes, enfants. Et il est riche. Il a pu acquérir les troupeaux, etc. Et donc, il est béni quand même. Et pourtant, le fait d'avoir une famille et d'avoir de la richesse, ça ne lui a pas apporté un cœur en paix. Parce qu'après 20 ans, il a toujours peur de son frère. Et la situation chez son oncle est tellement mauvaise maintenant, à la fin de ses 20 ans. Ça se dégrade, parce que c'est vraiment terrible ce qui se passe. Et Dieu lui dit, bon, repars dans ton pays. Mais il part avec toujours cette peur de son frère. Et plus il approche de son pays, plus il a peur. Parce que la situation n'est pas du tout réglée entre lui et Ésaü. Et le fait qu'il a volé cette bénédiction. Alors Dieu, il est tellement bon envers Jacob. Il envoie même des anges pour l'accueillir. Ce qu'on lit dans la parole, c'est que quand Jacob arrivait dans son pays, Dieu, il avait envoyé un comité d'accueil d'anges. Alors, moi, je ne suis pas... Encore une fois, je regarde ça, je dis, mais si c'était moi et j'arrivais quelque part, il y avait les anges là pour m'accueillir, tout ira bien. C'est clair que Dieu est là. Et qu'est-ce qui se passe? C'est marqué que Jacob eut très peur et l'angoisse le saisit. Parce qu'il a entendu que son frère Ésaü était en route pour le rencontrer. Donc, à chaque fois, Dieu, mais il va au-delà de ce qui est raisonnable. Il va au-delà de ce qui est raisonnable pour dire, non mais Jacob, ça va, je contrôle, je maîtrise la situation. Et Jacob, il n'arrive pas à le saisir, il n'arrive pas à croire que Dieu va vraiment faire ce qu'il a fait. Donc, à l'heure actuelle dans notre histoire, on a Jacob qui attend l'arrivée d'Ésaü avec beaucoup de crainte, beaucoup d'angoisse. Et pour la première fois, il se tourne à Dieu. Parce que jusqu'à là, c'est toujours Dieu qui a pris des pas envers lui. Mais maintenant, on voit qu'il y a Jacob qui prie. Et il avoue à Dieu son besoin de lui. Il le remercie pour sa grâce. Et il le remercie pour les bonnes choses qu'il a reçues. Et les choses qu'il a vécues. Et il commence à se rappeler des promesses de Dieu pour l'aider à faire face à cette situation. Si tu peux mettre la suivante. Donc, il commence à comprendre. Donc, puis Jacob pria, « Dieu de mon père, Abraham, et Dieu de mon père, Isaac. Ô Éternel, toi qui m'as dit, retourne dans ton pays, dans ta famille, et je te ferai du bien. » Vous avez vu ça? « Je te ferai du bien. » Claire, promesse claire. Je suis indigne de toutes les faveurs que tu as témoignées avec tant de fidélité à ton serviteur. Car lorsque j'ai passé ce Jourdain, je n'avais que mon bâton et maintenant je me trouve à la tête de deux camps. Parce qu'il avait divisé tout le monde qui voyageait avec lui, toutes ses troupes, etc., divisé en deux camps. Délivre-moi, je te prie, de mon frère Ésaü, car j'ai peur qu'il vienne me tuer sans épargner ni mère ni enfant. Pourtant, et là, enfin, pourtant, toi tu m'as dit, je te ferai du bien et je rendrai tes descendants aussi nombreux que le sable de la mer que nul ne peut compter. Et Jacob s'installa à cet endroit pour la nuit. Alors c'est un début. Déjà, Jacob commence à dire, ah oui, t'as dit ça. Ça commence à percer un peu sa manque de crédulité, sa manque de foi, sa manque de confiance en Dieu. Mais ce qu'on voit aussi dans ce passage-là, Dieu n'est toujours pas son Dieu. C'est toujours le Dieu de son père, c'est le Dieu de quelqu'un d'autre qui a été gentil envers lui. Mais on n'a pas un David ici qui dit « Oh mon Dieu, sauve-moi !» Ce qu'on voit assez souvent dans les psaumes par exemple. Jacob ne prie pas à mon Dieu. Il pria, voilà, le Dieu, je t'ai vu de loin. Je t'ai vu faire des choses, mais de loin. Donc, il résiste encore le don de soi-même. N'oublie pas qu'il a dit, si tu fais ceci, si tu fais cela, si, alors tu seras mon Dieu. Mais il n'est pas encore prêt à s'engager avec Dieu, pour se donner à Dieu. Il n'est pas encore à ce point-là. Mais nous allons voir que Dieu utilise ce qui se passe ensuite pour travailler son cœur, pour le faire arriver à ce moment où il est obligé de se donner à Dieu. Pas par la force, mais par la persuasion douce de Dieu. Alors, qu'est-ce qui se passe ensuite? Jacob a envoyé toutes ses possessions et toute sa famille avant lui. Donc, eux, ils ont tous traversé la rivière. Et Jacob, il reste seul de ce côté-là. Alors, je ne sais pas, c'est peut-être parce qu'il a toujours peur. Et c'est bon, si Ésaü arrive, bon, d'abord, il y a tous les troupeaux. Ben, ensuite, il y a les enfants et mes femmes. Et voilà, moi, je reste bien, bien en recul. Je ne sais pas si c'est ça ou peut-être il savait en lui qu'il avait besoin d'un temps seul parce que les choses n'allaient pas. Quoi qu'il en soit, quelque chose passe. Dieu vient le rencontrer. Peut-être la seule différence de sa façon d'être maintenant et sa façon d'être il y a 20 ans, c'est que maintenant il a les yeux un tout petit peu plus grand ouverts sur la grâce de Dieu envers lui. Mais à part ça, il n'y a pas grand-chose qui a changé en lui. Et puis, en Genèse 32, on voit un homme lutte avec lui jusqu'à l'aube. Donc, il est tout seul et tout d'un coup, il y a cet homme-là qui lutte avec lui jusqu'à l'aube. Quand l'adversaire vit qu'il n'arrivait pas à vaincre Jacob, il lui porta un coup à l'articulation de la hanche qui se démit pendant qu'il luttait avec lui. Et puis, il dit à Jacob, « Laisse-moi partir, car le jour se lève. » Mais Jacob répondit, « Je ne te laisserai pas aller avant que tu ne m'aies béni. » « Quel est ton nom ? » demande l'homme. « Jacob, » répondit-il. « Désormais, » reprit l'autre, « tu ne t'appelleras plus Jacob, mais Israël, ce qui veut dire « il lutte avec Dieu. » Car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes et tu as vaincu. » Jacob l'interrogea, « S'il te plaît, fais-moi connaître ton nom. »« Pourquoi me demandes-tu mon nom ?» lui répondit-il. Et il le bénit là. Jacob nomma ce lieu Peniel, ce qui veut dire la face de Dieu. Car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face et j'ai eu la vie sauve. Quand il eut passé le gué de Peniel, le soleil se leva et Jacob boitait de la hanche. Alors, c'est un peu bizarre comme événement. Quelqu'un que tu ne connais pas vient, lutte avec toi toute la nuit et puis change ton nom à la fin. Je sais pas pour vous, c'est pas dans mon expérience de chrétien que ça m'arrive. Peut-être on aura les témoignages après, mais ce qui est clair là, c'est Jacob, il est en train de vivre une rencontre avec Dieu. Nous savons que c'était Dieu et pas juste n'importe quel homme. Quand nous voyons la réaction de Jacob, Jacob dit, j'ai vu Dieu face à face et j'ai eu la vie sauve. Dieu, même s'il a demandé à un moment donné le nom de la personne, il sait. Il sait au fond de lui, ça, c'est Dieu. Ça, c'est Dieu qui est venu me voir. Mais on peut se poser quelques questions. Moi, j'ai trois questions que je me pose en lisant ça. Première question. Okay. Qu'est-ce qui pourrait pousser Dieu à orchestrer ce genre de rencontre? Il y a des façons plus faciles de parler à quelqu'un plutôt que de lutter toute la nuit. Moi, je pense que c'est une leçon. Pour Jacob, pour nous tous peut-être. Jacob, il se trouve entre la lutte avec son oncle, le grand magouilleur, et sa lutte imminente avec Ésaü. Et je me demande si Dieu vient à Jacob ce moment-là parce qu'il veut montrer à Jacob que sa vraie lutte a toujours été avec Dieu. Tout le long de sa vie, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a essayé de faire lui-même, en fait, c'était une bataille. Mais ce n'était pas une bataille avec Ésaü, ni avec son père, ni avec son oncle. C'est Dieu et Jacob. Et je pense que c'est intéressant aussi de noter, la Bible nous dit que c'est bien l'homme qui luttait avec Jacob. C'est Dieu qui a initié cette soirée, cette nuit de lutte. Ce n'est pas Jacob qui cherchait ça. C'est Dieu qui dit, je vais te montrer la vraie lutte dans ta vie. Parce que ce n'est pas ce que tu penses. Et puis, je pense qu'il y a une deuxième question. Jacob a-t-il vraiment vaincu Dieu? Ça me pose problème. Est-ce que c'est possible? Est-ce que Dieu se laisse battre? Question difficile. Ce n'est pas une question piège. Parce qu'il est important de reconnaître que l'homme, Dieu, qui luttait avec Jacob, il avait le pouvoir de vaincre Jacob à tout moment. Et si l'homme pouvait gagner à tout moment, pourquoi a-t-il lutté toute la nuit? Parce qu'on voit que tout ce qu'il fallait de cet homme-là, c'est qu'il touche comme ça une partie de Jacob. Et tout de suite, Jacob, il ne peut rien faire. Il est complètement anéanti. Pourtant, on lui dit qu'il a gagné. Dans son changement de nom, c'est « tu as lutté avec Dieu et tu as gagné ». Et pourtant, il n'a pas gagné. Pas vraiment. Parce que c'est lui qui était en état de douleur, etc. à la fin. Je pense que Dieu savait que Jacob avait besoin de venir au bout de lui-même. Parce que pour quelqu'un qui aime manipuler, aime faire un peu ceci, un peu à ma façon, moi je vais gérer ceci, il fallait que Jacob soit épuisé. Il fallait que Jacob arrive au moment où il ne pouvait plus. Parce que c'est seulement à ce moment-là, parfois, qu'on est prêt à dire « Ok, Dieu ». Quand on arrive en fin de soi. Parce que Jacob, il avait besoin de voir clairement, sans aucune doute, la supériorité de son adversaire. Il avait besoin de voir qu'en fait, l'autre était beaucoup plus puissant que lui. Il fallait ça. Et il est complètement incapable de faire quoi que ce soit. Je pense que Jacob, il connaissait les promesses. Il croyait pouvoir faire ce qu'il fallait pour voir ses promesses s'accomplir. Mais son cœur ne appartenait pas à Dieu. Et donc, il avait besoin d'une crise qui le poussait dans les bras de Dieu. Et il avait besoin de cette crise. Je pense que c'est à ce moment-là, il voyait qu'il avait besoin d'une vraie bénédiction de Dieu. Parce qu'il savait que la bénédiction de Dieu, ça valait beaucoup plus que la bénédiction qu'il a volée. Et en fait, cette bénédiction volée ne pouvait pas remplacer la bénédiction de Dieu. Mais il fallait d'abord passer par cette face-à-face avec Dieu. Et je pense que Dieu cherchait cet abandon de la part de Jacob. Il voulait entendre Jacob dire, je ne te lâche pas avant que tu ne me bénisses. J'ai besoin, je sais que j'ai besoin, c'est cette bénédiction dont j'ai besoin. C'est pas l'autre. Donc je pense que est-ce qu'il a vaincu? Quelque part, oui. Quelque part, non. Parce qu'il était hors service à la fin. Il boitait, on voit. Il était comme ça. Mais il avait vu Dieu. Et je pense que là, il a gagné. Il a gagné. Il était arrivé au bon moment pour se donner à Dieu, pour chercher la bénédiction. Parce qu'il a reçu la bénédiction de Dieu, il a gagné. C'est ça qui fait que Jacob est vainqueur ici. C'est parce que Dieu a vaincu, finalement. Et la troisième question. Pourquoi l'homme a-t-il demandé à Jacob son nom? Est-ce que Dieu ne savait pas avec qui il luttait? Est-ce que Dieu il dit, tiens, il y a l'homme là, je vais aller lutter et on verra ce qui se passe? Ben non, bien sûr que non. Dieu, il savait que c'était Jacob. Donc, si Dieu pose la question, c'est pas parce que Dieu a besoin de connaître le prénom de son adversaire. Parce que là, c'est déjà clair. Moi, je pense que c'est parce que Jacob a demandé la bénédiction. Et La dernière fois qu'il a demandé une bénédiction, il a menti sur qui il était. Parce que la dernière fois qu'il demandait une bénédiction, son père lui a dit « Qui es-tu ?» et il a dit « Ésaü, Ésaü. » Et je pense que Dieu voulait que Jacob revive ce moment-là. Parce qu'il avait besoin de voir que la bénédiction ne passe pas par le mensonge. Et tu ne peux pas tricher pour avoir la bénédiction de Dieu. Ok? Et après toutes ces années perdues, je pense que Jacob, il se rend compte de cela. Ça ne sert à rien. Parce que c'est Dieu en face. Et donc, il est vrai avec Dieu. Et il dit, l'homme dit, bah, quel est ton nom? Et Jacob dit, je m'appelle tricheur. Parce qu'il dit, je m'appelle Jacob. Je m'appelle tricheur, je m'appelle escroc. C'est qui je suis. Et qu'est-ce que Dieu dit? Bah, tu n'as pas tort. Effectivement, il ne dit pas. Tu n'as pas tort, mais c'est un peu ça qu'il est en train de dire. C'est, oui, c'est bien. Oui. Tu appelles Jacob. Mais qu'est-ce qu'il dit ensuite? Je vais changer ton nom. Maintenant que tu sais admettre qui tu es, et maintenant tu sais que tu as besoin de ma bénédiction, maintenant, enfin, après, parce que Jacob, il a 60 ans, là. Maintenant, après 60 ans, on peut enfin avancer pour accomplir les choses que moi, j'avais déjà prévues il y a, avant l'aube des temps. Tout ce que j'avais prévu pour toi, maintenant que tu sais admettre qui tu es et ce que tu as fait, et que tu sais que tu as besoin de ma bénédiction, enfin. Heureusement que j'ai persévéré, dit Dieu. Parce que j'aurais pu, à n'importe quel moment, dire, bon, allez, je change d'avis, je vais chercher quelqu'un d'autre. Mais Dieu ne l'a pas fait parce qu'il voulait la bénédiction pour Jacob. Et donc, si Dieu a demandé son nom à Jacob, ce n'est pas parce que lui, Dieu, ne le savait pas. C'est parce qu'il voulait savoir que Jacob savait son nom, que Jacob savait qui il était vraiment. Et est-ce qu'il était prêt à reconnaître son caractère et ses péchés et ce qu'il a fait? Ou est-ce qu'il allait continuer à lutter avec Dieu et chercher à faire à sa façon? Et je pense que pour nous tous, nous avons tous besoin d'arriver à ce point avec Dieu, de reconnaître que nous avons besoin de changer de nom. Alors, ça ne veut pas dire que... on arrête de m'appeler Sandy et voilà, je prends un autre nom. Bien que j'ai connu les personnes pour qui ça faisait partie de leur transformation par Dieu. Ils avaient décidé de changer. C'est beaucoup plus facile en Angleterre, il faut dire. Donc, c'est peut-être pour ça que ça ne se passe pas aussi souvent. Mais je connais des personnes en Angleterre qui, au moment où ils ont rencontré Dieu, c'est « je prends le nouveau nom ». Et ils changent de nom. Mais c'est plus que ça, parce qu'on a d'autres noms. On a le nom pécheur, qui devient le nom saint. On a le nom rebelle, qui devient le nom ami de Dieu. On a le nom ennemi, qui est transformé en fils ou fille de Dieu. Donc il y a des changements de nom pour chaque personne. Et tout ce qui était vrai avant, Dieu, il peut dire, hop, on change, on transforme. Tu ne vas pas être alourdi par ce nom qui n'est plus vrai pour toi, par ce nom qui n'est plus le cas pour toi. Tu n'es plus tricheur. Maintenant, tu es celui qui lutte avec Dieu. Et je pense que ça revient toujours à cette idée que Dieu, il est toujours le vainqueur. Il est toujours le vainqueur. Pour Jacob, le fait qu'il boitait après, on peut dire, mais tiens, pourquoi pas la guérison? Mais je pense que pour Jacob, le chemin a été tellement long qu'il avait besoin d'un rappel constant que tu dois être dépendant de Dieu. Et à chaque fois qu'il avançait, il avait besoin de savoir, ah oui, Dieu a fait ça. Alors, ce n'est pas le cas pour tout le monde, on porte pas forcément nos souffrances en rappel de quoi que ce soit, mais je pense que pour Jacob, pour lui, je suis sûre que c'était ça. Pour ça qu'il continuait à boiter après, parce qu'il avait besoin de se souvenir, c'est Dieu qui a vaincu. Et quand Dieu gagne, bah bien sûr nous gagnons. C'est pas compliqué. Dieu, il s'est montré supérieur, mais à cause de cela, Jacob, il a pu entrer dans tout ce que Dieu avait pour lui. Alors concrètement, quel rapport? Bah, j'espère que vous avez déjà vu quelques rapports entre Jacob et nous parfois. Je dis pas que c'est pas tout le monde, mais je vois quelques reflets de ma vie parfois quand je lis cette histoire-là. Donc concrètement, Paul, tu peux faire la suite. Donc le premier, la plus grande lutte est toujours celle du cœur. Qui va être le maître? Et Jacob, il semblait passer d'une lutte à une autre lutte, à encore une autre lutte. Mais en fait, la plus grande bataille, il s'est rendu compte de cela finalement, c'était qu'est-ce qui se passe dans mon cœur? Qui va être le maître? Parce qu'il voulait la bénédiction de Dieu sans lui appartenir. Moi, j'ai déjà été dans cette situation-là. Je veux tout ce qui est bon de Dieu, sans parfois me mettre dans la position que Dieu veut pour moi. Il voulait l'aide de Dieu dans ses difficultés, mais il ne voulait pas se soumettre à Dieu dans la vie de tous les jours. Là aussi, je vois parfois certains échos de ma vie. Il voulait les avantages de Dieu sans avoir la relation avec Dieu. Et donc, il voulait toujours rester dans le superficiel. Et son problème, à lui, ce n'était pas ses histoires de famille. Ce n'était pas ses histoires de famille, mais c'était son problème, c'était sa relation superficielle avec Dieu. Et ce qui est vrai pour Jacob, je pense que c'est vrai pour nous, parfois. On reste superficiel, on veut ce qui est bon, on veut ce qui est facile, on veut voir la provision de Dieu, on veut voir la fidélité de Dieu. Et heureusement pour nous, Dieu est fidèle. Mais parfois, on a besoin d'examiner un peu nos cœurs. C'est est-ce que je suis dans la situation? Est-ce que je me suis soumis à Dieu pour pouvoir vraiment recevoir la vraie bénédiction que Dieu a pour moi? Est-ce que dans cette lutte, je suis toujours en train de lutter ou est-ce que Dieu a gagné? Et je pense que c'est important pour nous. Le deuxième point, et c'est un point rempli d'espoir. C'est pour ça que je veux vous encourager. C'est que Dieu nous poursuit malgré notre résistance. Il nous poursuit malgré, je ne sais pas combien de fois dans ma vie, je n'ai pas rendu les choses faciles pour Dieu. Alors j'espère maintenant que j'ai appris un peu ma leçon et que je suis beaucoup moins récalcitrant, mais je pense que parfois on résiste Dieu, on résiste ce que Dieu fait parce qu'on croit que c'est difficile ou c'est compliqué. Et en fait, Dieu nous poursuit parce que lui, il est en train de se dire, mais je sais que ce que j'ai pour toi, ça va au-delà de ce que vous avez prévu. Et Dieu, il sait mieux que nous ce qui est bon pour nous. Donc ça, c'est vraiment important. Dieu, il aurait pu dire à Jacob, « Bon, fais comme tu veux, fais confiance à toi-même et tu verras. » Allez, on verra. Mais il n'a pas fait ça. À chaque fois, il se présentait à Jacob. Il mettait les anges sur sa route pour dire, « Allez, allez, reviens, pas là, pas là. » Finalement, il vient faire un face-à-face, main à main plutôt, avec Jacob. Donc Dieu, il ne lâchait pas. Et Dieu, il est comme ça avec nous. Il nous poursuit. Il nous poursuit parce qu'il a notre bien à cœur. Et donc, ça va contre son cœur de père de nous juste laisser continuer, faire notre truc. Et je pense souvent c'est pour ça que quand on est dans les difficultés, parce qu'on est dans la désobéissance, que Dieu permet plus de difficultés. Parce que je pense que ce que Dieu est en train de dire, mais il faut que tu vois que tu as besoin de moi. Il faut que tu reviennes à moi. Et c'est ce qui s'est passé avec Jacob. Donc Dieu, il ne nous lâche pas, mais il ne nous force pas non plus. Et ça, c'est important. Il veut nous amener au point où on crie par la foi, « Bénis-moi, je ne te lâche pas avant de connaître ta bénédiction. » Et dans nos difficultés, on a besoin de faire ça. Je ne te lâche pas. Ce n'est pas, « Oh Dieu, tu m'as abandonné. Voilà, j'abandonne et je vais souffrir tout seul. » Dieu veut que dans nos difficultés, on dit à Dieu, « Je ne te lâche pas avant de connaître ta bénédiction. » Parce que quand c'est plus difficile, qu'on a plus besoin de nous accrocher à Dieu. Donc, j'aimerais terminer avec une dernière pensée par rapport à la fidélité et les promesses. Vous vous souvenez de la promesse de Jacob pendant sa fuite? Il a dit, si Dieu est avec moi, s'il me protège, si, alors l'Éternel sera mon Dieu. Et effectivement, on lit en Genèse 33, 18, à son retour de Paddan Aram, Jacob arriva sans encombre. Vous avez remarqué ça? Il arrive sans encombre. Après tout ce qu'il a vécu, finalement, il arrive quelque part sans encombre. Il arrive sans encombre à la ville de Sichem, dans le pays de Canaan, et il établit son camp devant la ville. Et il y érigea un autel qu'il appela El Elohe Israël, qui veut dire Dieu est le Dieu d'Israël. Et c'est quoi son nom? Israël. Donc, c'est à ce moment-là, il est en train de dire à Dieu, tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, le Dieu d'Israël. Et Dieu, il est aussi fidèle à ses promesses. Si tu peux faire la suite. Alors, la promesse que Dieu a faite à Jacob, c'est « Par toi, toutes les familles de la terre seront bénies. Je ne t'abandonnerai pas, mais j'accomplirai ce que je t'ai promis. » Oui, on a vu ça plusieurs fois. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand Jacob est rentré dans son pays, là où il a construit l'autel qui s'appelle « Dieu, tu es mon Dieu », il a fait une autre chose de très important. Il a creusé un puits. Il a creusé un puits et c'est un puits qui prend beaucoup d'importance dans le Nouveau Testament. Parce que en Jean 4, il y a Jésus qui parle à une femme non juive, donc une samaritaine. Et c'est la première fois qu'on voit Jésus explique les choses de Dieu à quelqu'un qui ne fait pas partie de la nation d'Israël. C'est la première fois. Et ça se passe où? Ça se passe où? Le verset 6 dit, c'est là que se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, s'assit au bord du puits. Et c'est au puits de Jacob, par qui toutes les nations allaient connaître la bénédiction de Dieu, que Jésus dit à cette femme, dont la vie est aussi chamboulée, désordonnée que la vie de Jacob, il dit, si tu savais quel don Dieu veut te faire, l'eau que je te donnerai deviendra en toi une source intarissable, qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Tu peux le mettre? Si tu savais quel don Dieu veut te faire, l'eau que je te donnerai deviendra en toi une source intarissable qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Si tu savais. Finalement, c'est ça, quand Dieu persévère, c'est ce qu'il est toujours en train de dire. Mais si tu savais. Pendant la lutte avec Jacob, c'est « Mais si tu savais que tu pouvais me faire confiance. Si tu savais que les promesses que j'ai faites, je suis fidèle à ma parole. Je tiens parole. Je suis un Dieu qui est fidèle. Si tu savais que si tu te laisses abandonner à moi, que moi je peux faire de grandes choses. Si tu savais, c'est un don de Dieu. » Et pendant cette lutte-là, Dieu dit à Jacob quelque part, si tu savais que j'ai tout en main, quand je dis une chose, je tiens parole, je suis avec toi. Si tu savais quel don je veux te faire. Donc, change ta façon de penser. Reconnais que je suis vainqueur. Mais sache aussi, lorsque tu te donnes à moi, toi aussi, tu gagnes. Quand tu te donnes à moi, toi aussi, tu gagnes. Alors, j'aimerais qu'on se lève, si vous voulez bien. Et on va prier. On va prier. J'espère qu'il y a quelque chose dans ce que j'ai dit aujourd'hui qui vous a parlé. Il y a peut-être une phrase ou un verset ou un exemple ou peut-être il y a quelque chose. Mais je pense que c'est le cas aujourd'hui qu'il y a certaines personnes ici qui veulent la bénédiction de Dieu sans lui appartenir pleinement. Qu'on veut l'aide de Dieu dans les difficultés sans vouloir se soumettre à la volonté de Dieu pour nous. Mais si tu savais que Dieu veut que tu gagnes, et on va fermer les yeux un instant, et juste chacun à sa place, dans votre cœur, dis à Dieu, je me soumets. Seigneur, tu gagnes. Seigneur, j'arrête de lutter. J'arrête d'essayer de toujours faire à ma manière, mais je te fais confiance. Seigneur, je vais agir dans la droiture et l'intégrité. Parce que je sais que je ne vais pas accomplir grand-chose pour toi si je ne suis pas dans le droit chemin. Seigneur, je me donne à toi. Merci que tu vas m'aider dans mes difficultés. Merci que tu vas m'accompagner. Merci que tu vas accomplir tes promesses. Mais Seigneur, je ne veux pas être si tu fais. Mais Seigneur, je veux me donner complètement. Et je sais, je n'ai pas besoin de mettre condition sur ça. Parce que je sais que tu es un Dieu fidèle. Et si ce matin, tu n'es pas sûr, demande à Dieu de te donner la foi. Parce que la foi, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qu'on a besoin d'inventer nous-mêmes. La foi, ça vient de Dieu. Donc, on va prendre un moment là, juste pour dire ce qu'on a à dire à Dieu.